On peut se tourner donc dans Romains 5 et on va lire à partir du verset 1. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Et il y a une différence entre ce don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne l'acquittement après un grand nombre de fautes. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ce passage. Merci pour ta parole. Merci parce qu'elle elle est inspirée, Seigneur. C'est toi qui l'a, pour ainsi dire, parlé par la main de Paul, et nous la recevons ce matin et nous voulons avoir des cœurs ouverts pour entendre ce que tu as à nous dire, pour comprendre ce que ta parole nous dit et pour y obéir, Seigneur. Merci pour ce temps ensemble, merci pour ce lieu. On te prie de bénir les autres églises à Nice, les autres églises en France, Seigneur. Que ton esprit soit déversé, que tu sois à l'œuvre parmi nous et parmi tous les chrétiens, Seigneur. Nous avons besoin de toi et nous nous en remettons à toi ce matin. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, ce matin, nous allons étudier à partir du verset 12. La semaine dernière, nous avons regardé le début du chapitre 5. Et nous avons parlé des fruits de la justification en Christ, l'idée que nous avons la paix avec Dieu, que nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu et que nous avons la joie même dans les difficultés, même dans les tribulations, la joie en Dieu. Et je dois vous avouer que préparer ces textes, j'ai enseigné déjà la semaine dernière, de préparer le texte la semaine dernière, de préparer le texte ce matin, de regarder dans ce livre, cet épître de Paul aux Romains. Pour moi, c'était difficile d'une certaine manière, parce que c'est des choses d'une telle richesse et une telle profondeur et d'une telle gloire que c'est difficile d'en communiquer tout le fruit. Si vous prenez le temps éventuellement de lire quelques commentaires écrits par des théologiens ou des personnes qui prennent encore beaucoup plus de temps à étudier la parole de Dieu, si vous allez regarder des commentaires peut-être ou des choses que peuvent dire Luther ou Calvin ou des pères de l'Église sur l'épître de Paul aux Romains, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes parce que c'est tellement incroyablement riche. Alors toute la Bible est riche, évidemment, c'est la parole de Dieu. Mais d'une manière ou d'une autre, la lettre de Paul aux Romains fait partie de quelque chose d'incroyable que Dieu a voulu nous communiquer par Paul. C'est difficile de se restreindre à une demi-heure, 45 minutes, voire une heure, comme on le fait souvent le dimanche matin, et de passer sur ces versets où il y a tellement de choses qui concernent Dieu, qui nous concernent, qui concernent Jésus, que c'est difficile. Et vous savez en plus que moi, je suis quelqu'un, je suis curieux, j'aime bien lire. Et par exemple, je me suis retrouvé avec entre tous les commentaires que mon père possède et ceux que j'ai moi, plus les ressources sur Internet. Et on se retrouve en préparant cette étude à pas avoir le temps de lire tout ce qui est à notre disposition et tout ce qu'on aimerait lire pour pouvoir vous le communiquer. Mais je vous encourage encore une fois, comme je l'ai déjà fait, à prendre le temps, pas seulement le dimanche matin, mais dans la semaine, de repenser, de relire ces passages, de repenser à ces choses sur lesquelles nous parlons le dimanche matin, parce que c'est des choses incroyables. C'est des choses tellement riches, que c'est difficile à communiquer avec des mots. Alors ce matin, on regarde un passage qui est peut-être un peu plus, on pourrait dire un peu plus théologique, à partir du verset 12. Donc on va regarder une sorte de comparaison entre Adam et Jésus. Quand on lit ce passage, on a peut-être du mal à savoir pourquoi c'est important ou pourquoi ça nous semble un peu bizarre. Il y a sans doute pas énormément de gens qui vous diraient que c'est leur passage préféré dans la Bible, celui qu'ils aiment lire ou qu'ils ont appris par cœur parce que ça leur plaisait tellement. C'est pas forcément le genre de choses sur lesquelles on va écrire une chanson. Mais c'est quelque chose de très riche et il y a énormément de choses à dire sur ce passage. On a regardé la semaine dernière cette idée de la justification par la foi encore et on a dit qu'on avait cette paix avec Dieu, qu'on avait la grâce de Dieu et qu'on avait la joie qui nous était réservée comme des fruits grâce à cette justification et le fait que nous sommes justifiés vis-à-vis de Dieu et que nous sommes au bénéfice de ces choses. Et je voulais noter juste l'idée que quand on regarde ces passages, quand on regarde ces choses, quand on parle de la justification par Jésus-Christ, quand on parle des réalités spirituelles, quand on regarde ces choses, ce qu'on a regardé la semaine dernière et ce qu'on va regarder ce matin, on a souvent un sentiment de décalage ou quelque chose de peut-être de où nous nous sentons un peu en porte-à-faux. On dit d'accord, oui, alors je suis une nouvelle créature, oui, la Bible me dit ça, mais je le ressens peut-être pas. Dans les passages qui vont suivre, Paul va nous expliquer que nous sommes morts au péché et on va dire mais le péché est encore bien présent dans ma vie, qu'est-ce que c'est que ces choses, d'avoir la joie dans les tribulations, d'avoir d'avoir la paix avec Dieu. Paul va s'y attarder, on le regardera dans la suite de l'étude de l'Épître aux Romains, mais l'idée, c'est qu'il y a une réalité spirituelle qui, pour nous, n'est pas toujours évidente. Nous, avec notre chair, avec notre vieille nature, nous sommes en lutte. Et il y a des réalités spirituelles que la Bible nous explique, et nous, on a du mal parfois à les voir, on a du mal à les comprendre, et on a souvent même du mal à les accepter. Je vous expliquais la semaine dernière que la grâce, c'est l'idée que Dieu nous regarde avec faveur, avec joie, qu'il nous aime, qu'il veut nous bénir, et que c'est quelque chose de tellement riche et bon. Et parfois, nous, on se dit, mais Dieu, peut-être il me tolère juste, il est juste, il me dit d'accord, je t'accepte, mais tu restes un peu loin, quoi. C'est un peu l'idée. Est-ce que vous avez peut-être des gens, vous dites, j'aime cette personne parce que c'est peut-être de la famille, mais j'aime pas forcément être avec elle. Vous voyez la distinction? Des fois, on se dit que Dieu, il nous aime, mais que à cause de notre péché, à cause de qui nous sommes, de nos manquements, de nos fautes, qu'il est juste un peu, oui, je vous aime, mais d'accord, j'aime pas vraiment. Dieu, c'est pas ça. Dieu aime bien être avec nous. Et cette réalité, ces choses-là, souvent, c'est difficile à accepter. On se dit, on tombe dans le péché, on fait quelque chose. Et moi, je sais pas si c'est le cas pour vous. Il y a des moments où je me dis, mais après avoir commis un certain péché, je me sens un petit peu mal vis-à-vis de Dieu. Et je me dis, ouais, je vais peut-être pas prier, je vais peut-être pas mener la louange parce que, ouais, dans deux trois jours, peut-être ça ira mieux. J'aurai lu ma Bible deux trois fois et ça va mieux. Et à ce moment-là, je pourrais être avec Dieu. Et c'est pas ça la réalité. C'est pas ça la grâce. C'est pas ça que la Bible nous enseigne. Et ces réalités spirituelles, ces choses que nous regardons dans Romains, sont des choses que nous devons accepter et croire par la foi. Nous devons accepter ce que la Bible nous dit et vivre en conséquence et dire non, Dieu m'aime, je peux toujours aller le voir, même quand je viens de pécher, je me retourne, je dis pardon papa et j'ai accès. Il n'y a pas de limite qu'on peut dire les choses qui sont expliquées. Non, je peux me réjouir dans les tribulations. Non, j'ai la paix avec Dieu. Je suis entre moi et Dieu, c'est bon. Il n'y a pas j'ai fait un truc, ça y est, il y a une petite bêtise, j'ai plus la paix. Alors on peut avoir notre conscience, etc., qui nous accuse. Mais ces réalités doivent être acceptées par la foi. Et la Bible nous explique plein de choses par rapport à ces réalités que nous ne voyons pas, ces réalités spirituelles, ces choses qui, pour nous, sont souvent difficiles à comprendre. Et ce matin, le passage que nous regardons, je vous ai dit, c'est un passage théologique, un peu peut-être un peu théorique, je pense que c'est un passage qui nous permet d'avoir une meilleure compréhension du monde tel que la Bible nous le présente, notre vue, notre vision du monde, notre conception du monde, on va dire un peu presque de manière philosophique ou théologique, mais ça nous présente des réalités sur le monde, sur qui nous sommes en tant qu'être humain, sur notre condition, sur la condition de l'homme et sur les réalités de nos vies. J'en ai déjà parlé par le passé, mais ces idées et ces choses qui influencent notre manière de penser, notre manière de concevoir le monde, sont des choses qui nous affectent, qui affectent nos comportements, qui affectent nos vies de manière profonde. Souvent on dit oui, d'accord, c'est des idées un peu, mais si vous levez tous les matins en vous disant j'ai la paix avec Dieu, j'ai la grâce et j'ai la joie parce que je vais prendre part à la gloire de Dieu, parce que il m'aime, quoi que je fasse aujourd'hui, il m'aime et je suis accepté. C'est des choses qui doivent, si vous vous dites ça le matin, si vous vous dites ça dans la journée, si vous arrive quelque chose et vous vous dites non, Dieu m'aime, il n'est pas en train de me punir par colère ou quelque chose comme ça, il est en train de me laisser traverser une épreuve pour mon bien, pour que je grandisse, pour que je devienne plus comme lui, vos vies changent, vos comportements changent, votre manière de voir la journée change. Et donc ces idées qui parfois, quand on les présente le dimanche matin, vous les entendez, vous dites ouais d'accord, c'est arrangé à... dans la case quand je ferai l'école biblique, peut-être jamais, et sinon pour moi ce matin c'est pas très intéressant. J'aimerais vous mettre au défi de réfléchir à ces choses et de les écouter et pas juste d'y passer trop rapidement. Alors, ce matin nous parlons d'Adam et de Jésus. Et le passage nous présente Adam, le premier homme, et il va nous expliquer des choses par rapport à ce que Adam a fait, par rapport à la chute et le péché originel, et ensuite va nous parler de Jésus comme étant le deuxième Adam, le suivant. Et on peut dire beaucoup de choses. Alors, il y a encore une fois, je vous ai dit qu'il y avait énormément de choses qu'on pouvait noter, mais c'est intéressant de noter, en passant, la manière dont Paul considère Adam et dont il en parle. Il en parle de manière très, Adam. Dans le texte, on n'a pas le sentiment qu'il parle d'une légende ou d'un mythe ou quelque chose qui n'aurait pas existé, mais il en parle de manière très, très factuelle. Et c'est intéressant à noter, Paul en parle dans deux autres passages, dans 1 Corinthiens et dans 1 Timothée, et là aussi, c'est présenté, Adam, il a fait ça, et voilà les conséquences, et il tourne pas autour du pot comme quelque chose de théorique ou de bizarre. Moi, je trouve intéressant, alors... c'est un débat et une discussion dans laquelle on rentre pas ce matin parce que c'est pas l'objet de l'étude, mais l'idée de la création du monde et de l'évolution ou de la création par Dieu, toutes les idées, tous les débats qu'il peut y avoir autour de ça, je trouve toujours intéressant que, a priori, quand on écoute les théories évolutionnistes, ma compréhension de non-doctorants, etc., etc., c'est qu'ils considèrent que même si l'évolution était vraie, qu'il y a une sorte de, il y a un ancêtre commun, que génétiquement on est tous descendants de quelqu'un, qu'il y a une sorte de, tous les hommes sur toute la planète arrivent de un point. Et je trouve ça intéressant parce que ils vont rigoler en disant oui, Adam, c'est des foutaises. Et pourtant, Adam, il correspondrait bien à cette idée-là, que génétiquement, on soit tous issus d'un seul homme. Alors, Paul en parle de manière très naturelle. Un autre point à noter, en passant rapidement aussi, c'est l'idée que, si vous vous tournez dans la Genèse et que vous lisez le récit, vous allez peut-être être tenté de dire, mais... Là, la Bible me dit que, dans le texte qu'on va regarder là, qu'on est en train de regarder, me dit qui c'est qui a écouté Satan en premier et qui a en quelque sorte proposé quelque chose à Adam. C'est Ève. Et la Bible, dans la suite de la Bible, n'impute jamais la faute à Ève. La responsabilité revient toujours à Adam. Et c'est quelque chose d'important, et je voulais le noter parce que Ève n'est jamais accusée dans la Bible de la responsabilité de la chute de l'homme et du péché originel. Et c'est quelque chose de je pense, de bon à entendre pour nous les hommes, que Dieu nous accorde une certaine responsabilité. Et dans la Bible, l'homme et la femme ne sont pas les mêmes dans leur responsabilité et dans ce que Dieu leur donne comme position et comme responsabilité. Et dans la Bible, Dieu impute la faute à Adam. Et c'est à lui que revient la faute. C'est lui qui, face à la situation, aurait dû agir différemment et aurait dû discuter avec Ève et dire non, c'est pas une bonne idée, tu sais ce que Dieu nous a dit, etc. Et il ne l'a pas fait et il en tient la responsabilité. Et je pense que c'est pas forcément agréable pour moi, mais dans nos familles, dans nos églises et dans la société, d'une certaine manière, Dieu nous regarde comme les porteurs de la responsabilité dans nos familles, de prendre les décisions, de diriger nos familles dans la foi, d'être les responsables religieux, en quelque sorte, dans nos familles, et de diriger. Et si nous nous échappons ou si nous essayons de fuir cette responsabilité, alors il y a des conséquences, et je pense que en bonne partie, Dieu nous tient pour responsables. Alors on peut lire maintenant dans le passage, maintenant que je vous ai introduit de manière pas très brève. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Ici, Paul ne fait pas vraiment une démonstration, il présente une vérité. Il dit voilà comment c'est. Ça, c'est la réalité est telle que je vous la présente. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et de même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. La Bible nous présente l'homme comme étant pécheur par nature. Nous aimons penser que souvent on tombe dans l'idée que nous sommes pécheurs parce que nous péchons. Si on ne péchait pas, on ne serait pas pécheur. Et la Bible nous explique qu'on a un problème au niveau de notre nature même et que nous péchons parce que nous sommes pécheurs par nature. Et alors c'est inversé par rapport à ce que nous pensons souvent. Et un exemple, quelque chose par exemple qui est un sujet là aussi sur lequel on pourrait s'étendre longuement, mais c'est les enfants. Si vous voyez des bébés, alors on peut penser ah oui les bébés c'est tout mignon, c'est innocent ça, et pourtant un bébé quand il a faim il vous le fait savoir. Un bébé s'il avait la coordination et la force il vous détruirait le berceau quand il a faim. Il dirait moi je veux ça. Et alors, il y a quelque chose d'innocent, évidemment, avec les bébés. Je dis pas le contraire. Mais il y a une nature de péché, même chez les bébés, même chez les petits enfants. Si vous êtes parents, vous savez que vos enfants, vous n'avez pas besoin de leur apprendre à mentir. Vous n'avez pas besoin de leur apprendre à faire de mauvaises choses. Qu'est-ce que nous avons besoin de leur apprendre? Nous avons besoin de leur apprendre les bonnes choses, comment bien se conduire, comment Dieu veut qu'ils se conduisent. Et on voit qu'il y a cette nature de péché qui s'exprime dès le début. Ça peut ouvrir toute une discussion par rapport à qu'est-ce qui se passe si les enfants meurent, etc., est-ce qu'ils sont sauvés, etc. Alors il y a plusieurs points, je ne veux pas m'attarder là-dessus. On peut juste dire que la Bible nous dit que Dieu est bon et qu'il est juste et que les jugements à la fin, que ce soit pour les petits-enfants qui sont peut-être morts avant d'avoir pu décider par eux-mêmes, que ce soit pour la question de population qui n'ont pas entendu l'Évangile, etc., etc., À la fin, quand Dieu va juger, personne ne va dire « les jugements de Dieu sont injustes ». Nous allons tous, en tant qu'hommes, reconnaître que Dieu est bon et que Dieu est juste dans ses décisions. Et donc on peut, par rapport aux petits-enfants, s'en remettre à ça, même si évidemment il y a des discussions et des points de détail sur lesquels on pourrait discuter. Éventuellement, si ça vous intéresse, vous pouvez venir me poser la question. Mais l'idée, c'est que l'homme est pécheur par nature. C'est Adam était le premier homme et, c'est intéressant d'y réfléchir, était un homme parfait comme Jésus va l'être. Il était vivant physiquement, il était vivant spirituellement et il ne connaissait pas la mort. Et le Dieu lui avait donné quelques éléments, quelques points voilà ce que tu vas faire et voilà la chose que tu ne vas pas faire. Et si vous allez regarder dans la Genèse 2, il explique que si tu manges de cet arbre, tu vas mourir. Et le passage ici, Paul nous explique que une fois qu'il a péché, il a connu la mort. C'est vraiment fou de réfléchir au fait que Dieu nous a créé l'homme à la base pour vivre sans connaître la mort. C'est une idée. J'ai essayé d'y réfléchir moi. Ça finit par faire mal à la tête. C'est tellement inconcevable de se dire. C'est tellement fou de se dire que Dieu nous a créé et que la mort n'était pas prévue. Là aussi, c'est une idée sur laquelle pas saisi du temps. Réfléchissez à ça. La mort n'était pas prévue, et c'est le péché, c'est-à-dire la désobéissance à Dieu, a amené la mort dans la race humaine, a amené la mort dans la création. Et ce passage ce matin nous présente d'une certaine manière deux règnes, avec deux rois, avec Adam et le règne de la mort causé par le péché, et ensuite Jésus et le règne de la grâce et de la vie éternelle qui est offerte. Et c'est vraiment un contraste entre les deux. Et dans le verset 12, on peut encore une fois le lire, c'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Là aussi, c'est intéressant de voir que d'une certaine manière, Satan, quand on lui obéit, il nous récompense, il nous paye avec la mort. Et Adam, au début, en désobéissant à Dieu, il a obéi à Satan, on le sait, et par ce péché, par le fait qu'il n'a pas obéi, qu'il a accepté ce mensonge et il a fait ce que Dieu lui avait dit de ne pas faire, il a introduit le péché dans le monde. Et ici, au verset 12, il est dit de même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Et tous ont péché, en fait, c'est une idée de tous ont péché en Adam. Et l'idée, et c'est peut-être une idée qui nous plaît pas trop, peut-être quelque chose qui nous énerve, je sais pas, c'est que, en gros, Adam a pris une décision et il a décidé pour nous tous. D'une certaine manière, en tant que représentant, il a pris une décision et ça nous a tous affectés, toute l'humanité. C'est un petit peu comme si le président décidait d'entrer en guerre avec, j'en sais rien, quelque chose de ridicule, si vous voulez, avec l'Allemagne, et qu'on se retrouve tous à subir les conséquences de ce choix. Et Et quand on entend ça, quand on se dit je suis pécheur, je me retrouve en difficulté vis-à-vis de Dieu, j'ai ces problèmes et tout ça parce que Adam aurait fait quelque chose il y a des milliers d'années. Non, c'est ridicule. On est dans une société très très individualiste et nous voulons pouvoir être responsables seuls, décider seuls. Je suis maître de mon destin, je décide ce que je veux faire, je suis indépendant, etc. Mais c'est pas la réalité que la Bible nous présente. Et alors, si ça nous énerve, on n'y peut pas grand-chose parce que c'est un état de fait. Mais si ça nous énerve, il y a aussi quelque chose de bon dans la suite du texte sur laquelle on va s'attarder, c'est que si par le péché d'un seul, on est tous devenus pécheurs par nature, ça ouvre aussi la voie à ce que Jésus décide aussi pour nous si nous acceptons son don par la foi. C'est un petit peu, pour vous donner une idée simple, c'est si vous vous retrouvez devant le juge pour un crime, et c'est quelque chose, et vous dites, non, c'est moi, j'ai fait ce que j'ai fait, vous avez à vous défendre seul. Et la Bible nous explique que nous n'avons aucune défense possible devant Dieu, rien de ce que nous faisons de bon n'est considéré comme bon par Dieu. La Bible nous explique que ce sont nos bonnes actions, nos bonnes intentions sont comme des torchons sales vis-à-vis de Dieu. Et c'est un petit peu là l'idée, comme si on disait, mais en fait, c'est pas moi qui ai décidé de faire ça, j'ai fait ça parce que mon patron m'a dit de le faire. Moi, j'étais au boulot, mon patron est venu me voir, il m'a dit, tu mets des capteurs bizarres sur les moteurs diesel et histoire que ça fasse sauter les vérifications. Normalement, alors évidemment, il y a quand même des conséquences dans ce cas précis, mais l'idée c'est que si c'est le patron qui est responsable, le juge va pouvoir nous, d'une certaine manière, nous dédouaner s'il y a quelqu'un vient et dit non, je vais prendre ma place, il a pas décidé, enfin, il y a une sortie. Et le fait que Adam soit responsable pour la nature pécheresse de tous les hommes fait qu'on peut, Jésus peut, en quelque sorte, dire « Moi, je suis le responsable pour tous ceux qui m'acceptent par la foi et je change leur nature. » Alors, au verset 13, il dit « En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. » Donc il commence le passage et puis ensuite il répond d'une certaine manière un peu à une question où les gens disent « Mais moi je pensais qu'on était pécheurs si on n'obéissait pas à la loi. » Il y a les 10 commandements, si je suis les 10 commandements, c'est bon, je suis bon. C'est ce que pensaient les juifs de l'époque. Et Paul il dit « Non, non, regardez, avant que la loi n'ait été donnée, il y avait déjà la mort. Et comme il y avait la mort, vous voyez qu'il y avait le péché, parce que la mort, c'est le fruit du péché. Et Adam, en quelque sorte, il avait une sorte de loi, juste avec cette règle de ne pas manger de l'arbre. Et il a commis cette transgression. Et il nous a transmis une vie physique. Nous sommes descendants physiquement de Adam, mais il était mort spirituellement et ce qu'il n'avait pas, il n'avait plus de vie spirituelle, il ne pouvait donc pas la transmettre en quelque sorte. Il y a plus cette vie et donc c'est passé l'humanité dans la nature même. L'homme était pécheur et le péché et la mort étaient bien présents avant la loi, comme on le sait. Cette idée-là, la mort a régné. Encore une fois, je vous disais, c'est un peu deux règnes qui sont présentés ici. si vous voulez aussi réfléchir à quelque chose qui est là aussi une idée qu'on a du mal à saisir, c'est de penser à la mort. C'est pas forcément toujours très agréable, mais c'est quelque chose qui est une réalité et une vérité dans nos vies. Quel est le pourcentage de chance que je ne meure pas? Zéro. Nous allons mourir. L'homme va mourir. Et c'est cette idée de réfléchir au règne de la mort. C'est vraiment, quand on regarde l'histoire de l'humanité, de penser à tous les hommes qui sont morts physiquement, c'est incroyable. Je suis passé par une phase là ces dernières années où je m'intéresse beaucoup à la Première Guerre mondiale parce que j'ai appris que certains de mes ancêtres sont morts à la guerre de 14-18 et comme c'est les 100 ans on commémore les 100 ans de la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup de rééditions de livres, de films, de séries qui présentent tout ça et de voir la mort et les chiffres et les quantités d'hommes et de femmes et de c'est incroyable de réfléchir à quel point la mort règne et c'est quelque chose je ne sais pas si j'avais pas la Bible et si j'avais pas Jésus pour expliquer, pour trouver un sens à tout ça, pour trouver une explication, je ne sais pas où j'en serais. C'est tellement, pour moi, difficile à saisir. Je pense que c'est quelque chose, la mort. Je vous disais que l'homme n'avait pas été créé à la base pour mourir. Et je pense qu'il persiste quelque chose où on a le sentiment que la mort c'est quelque chose de pas naturel, où on a le sentiment qu'il y a quelque chose de c'est pas comme ça devrait être. Il y a quelque chose qui nous laisse un petit peu comme s'il y avait une trace. On sait que c'est pas l'origine, c'est pas l'original du plan et vraiment je pense que même si c'est une idée qui on peut se dire, mais c'est un peu glauque ce matin, là, ça va, tu vas passer à la grâce et la joie et la paix, quoi, c'est mieux. Mais je pense que c'est quelque chose, notamment vis-à-vis des non-croyants, qui peut être vraiment puissant de dire que la Bible nous explique la mort, nous explique d'où nous venons et où nous allons, pourquoi nous avons été créés. C'est quelque chose qui vraiment est là encore une fois, c'est une idée qu'on laisse un petit peu parfois dans les nuages, mais qui est une réalité et une base sur laquelle nos vies peuvent être fondées, où nous n'avons pas cette insécurité et cette hésitation face à la vie, parce que nous savons qui nous sommes et qui Dieu est et où nous allons. Si on revient au verset 15, mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Et il y a une différence entre ce don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne l'acquittement après un grand nombre de fautes. On peut continuer au verset 17. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Dieu est tellement, tellement bon et tellement généreux envers nous. Ce qui s'est passé par Adam, ce qui a eu lieu, c'était simplement la conséquence d'une seule faute et la juste récompense de cette seule faute. Et ça a entraîné beaucoup de mauvaises choses. Mais Dieu, lui, est arrivé et il a proposé un plan où, malgré les fautes, malgré toute l'accumulation des actions de l'homme et du péché de l'homme et de la nature pécheresse de l'homme, par un seul don, il peut annuler toutes les fautes, toute l'accumulation, tout ce qui, tout ce qui est venu après. On a regardé la semaine dernière les fruits de la justification et on avait parlé du fait que Dieu, il va au-delà de juste nous pardonner, juste nous dire c'est bon, je vais pas te faire subir les conséquences de ta faute. C'est pas juste un pardon. C'est comme si vous alliez voir le juge pour quelque chose et il vous dit non seulement je te pardonne, mais en plus je vais te donner un badge et une légion d'honneur et je vais te mettre sur un piédestal et je vais dire t'es vraiment bien. Et puis je vais te mettre à la table avec le président et tu vas pouvoir dîner avec lui. Ce don gratuit de la part de Dieu va au-delà. C'est pas juste ouf, j'y ai échappé. C'est pas juste ah les policiers m'ont pas vu. C'est non, les policiers m'ont vu et ils m'ont béni. Il y a quelque chose où c'est plus grand, c'est bien plus, c'est plus riche. Et dans la suite du texte, quand on arrive sur la fin, on peut, si vous voulez lire, verset 18, « Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. » Ainsi de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Paul, sur la fin, il va encore parler de la loi. Dans tout le livre de Romains, il est en train de remettre la loi à sa place, notamment pour les Juifs. Et il va expliquer que la loi, elle ne peut pas sauver, qu'elle est arrivée après la mort, que notre nature pécheresse était déjà présente, que nous étions déjà dans une situation de faillite devant Dieu. Et la loi, tout ce qu'elle a fait, c'était de permettre de révéler encore plus, de faire un contraste. C'est une sorte de révélateur. Et là, le terme, c'est vraiment quelque chose de beau quand il dit « mais la loi a entraîné la multiplication des fautes parce qu'une fois qu'on sait les règles et qu'on se rebelle un peu, c'est sciemment et il y a quelque chose de, il y a plus de péché parce qu'il y a ces règles. Et il dit, mais là où le péché s'est multiplié à cause de la loi et du fait de la nature pécheresse de l'homme qui agissait et qui se rebellait contre Dieu, il a dit, la grâce a surabondé. Et dans le texte original, il y a le mot hyper. Il a hyperabondé. Et c'est un petit peu comme l'image que le péché était en train de grimper, mais la grâce était toujours plus, toujours au-delà, toujours plus loin que ce que pouvait se multiplier le péché. Et on voit donc dans ce texte que c'est au verset 17, par la faute d'un seul, la mort a régné, mais la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. On a les deux règnes. On a Adam qui par sa faute et par le péché a introduit le règne de la mort, et on a Jésus qui arrive et qui par le don de sa vie, et ensuite le fait que nous pouvons être justifiés par la foi en lui, introduit un nouveau règne. La grâce et le don de la justice vont régner à bien plus forte raison. Cette idée de « à plus forte raison », c'est un peu comme s'il disait c'est plus certain que la mort. La mort, on sait que c'est certain. Il y a une citation célèbre de dire que les deux seules choses qui sont certaines, c'est les impôts et la mort. Et là, le texte nous dit non, le règne de la vie, de la grâce par Jésus-Christ sont encore plus sûrs. Vous pouvez encore plus vous asseoir dessus et être certain de ces choses. Et il fait le contraste, il continue en disant par la faute d'un seul, la condamnation a atteint tous les hommes. Et ensuite, par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. Et donc il continue dans ce contraste. Et si on pense à la vie, on est physiquement sous ce règne de la mort, sous Adam, ce règne institué par Adam. Et nous y identifions et nous l'acceptons quand nous péchons. Et ça révèle encore une fois notre nature pécheresse. Et la Bible nous explique que nous pouvons naître de nouveau spirituellement sous le règne institué par Jésus, l'humanité sauvée par la foi en Jésus-Christ. Si nous choisissons Adam, alors nous allons recevoir le jugement et la condamnation de la part de Dieu. Si nous choisissons Jésus, nous allons recevoir le don gratuit de la grâce et de la justification que nous avons regardé la semaine dernière, tous les bénéfices qui sont liés à ça. Et encore une fois, on n'aime pas trop cette idée d'avoir été représenté par Adam, mais c'est tellement une bonne chose pour nous de pouvoir nous dire c'est grâce à Jésus, et je m'identifie à Jésus et je dis par la foi en Jésus, Dieu accepte-moi, et Dieu dit oui, je t'accepte. Et on bénéficie de tellement de choses à cause de ça. Et au verset 21, « Ainsi de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » La grâce doit tout changer dans nos vies. On en a parlé la semaine dernière, je voulais en reparler et on va en reparler la semaine prochaine, pas moi je pense, ce sera Pierre, mais la grâce, le fait de dire j'ai accepté Jésus par la foi et je suis au bénéfice de la grâce de Dieu, il me regarde avec faveur, il veut me bénir, il veut me faire grandir, il veut que la vie règne en moi, que je sois dans un autre royaume, que je sois dans un autre quelque chose de complètement différent, ça doit tout changer dans nos vies, dans notre perspective de la vie. Et c'est là aussi quelque chose sur laquelle je vous encourage à réfléchir et à méditer. Et on voit que la grâce a hyper abondé dans vos vies si vous pensez qu'il y a trop de péchés que Dieu peut pas couvrir. Paul dit non, la grâce, elle surabonde, elle couvre. Et la question qui va venir, que nous allons regarder dans Romains 6, c'est certains vont dire oui, d'accord, mais s'il y a trop de grâce, alors c'est bon, on pêche et on s'en remet à la grâce de Dieu et on n'a pas besoin d'essayer de vivre correctement. Mais Paul va démonter cette idée-là et va expliquer que la grâce de Dieu ne tolère pas non plus le péché et que la grâce nous appelle à vivre et à être sanctifiés, à devenir de plus en plus comme Jésus. Et dans Tite 2, versets 11 et 12, il dit « En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. » Et Paul, donc on va regarder la semaine prochaine, va nous expliquer que cette grâce qui doit tout changer dans nos vies, cette grâce qui doit changer notre perspective, qui doit changer notre humeur, qui doit changer notre lecture de nos vies, de ce qui se passe dans le monde, des nouvelles le matin, ça doit vraiment changer la manière dont nous regardons le monde, dont nous réagissons face aux événements. C'est quelque chose qui est d'une telle richesse, d'une telle grandeur. Encore une fois, je vous disais, j'ai du mal à trouver des mots. Je me rappelle un certain président qui utilise beaucoup des mots comme super et bien et tout ça. Si vous avez déjà entendu les discours de Trump, il n'arrive pas à trouver des mots et il dit « Ouais, c'est bien, c'est vraiment bien, c'est bien, c'est bien. » Et j'ai l'impression de vous dire ça concernant la grâce. La grâce, c'est tellement bien, c'est tellement incroyable et c'est tellement riche. je vous encourage vraiment à relire ce texte, à relire tout le chapitre 5 cette semaine et à réfléchir à la grâce de Dieu, le fait que Dieu me regarde, nous regarde avec des yeux d'amour, avec tellement de joie et de bonté. Vous êtes pas au fil du rasoir, vous êtes pas juste toléré en sa présence, non, vous êtes bien plus que ça. Et c'est tellement incroyable. On va s'arrêter là pour ce matin. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce don gratuit, Seigneur, que nous pouvons accepter par la foi et qui nous permet, Seigneur, d'être sous ce nouveau règne, qui nous permet d'être de nouvelles créatures, d'avoir une nouvelle nature, Seigneur. Et parfois, Seigneur, j'ai du mal à le croire, j'ai du mal à l'accepter. Et Seigneur, tu veux que nous acceptions que nous sommes de nouvelles créatures en toi, que nous soyons sûrs de notre salut et de notre position dans la grâce, Seigneur, que tu as envers nous. Je te prie de nous aider, Seigneur, à intégrer ces réalités, ces idées dans nos vies, dans nos pensées, dans nos manières de vivre et de voir le monde, Seigneur, d'interagir avec nos frères et sœurs et l'humanité autour de nous, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es tellement bon envers nous, Seigneur.